Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Parler avec Dieu comme un ami, un rêve impossible dont Dieu paraît ne pas exister pour certains ou semble bien trop lointain pour d'autres, comme un voyageur parti au loin, comme le disait la liturgie de ce dimanche. Pourtant, au cœur de Toulouse, comme en bien d'autres endroits de notre région, en France et au-delà, des hommes entretiennent une relation vivante avec Dieu. Ces hommes, ce sont notamment les Carmes de Toulouse, réputés être des maîtres de prière. Des hommes qui n'ont qu'une hâte, nous aider à nous connecter, si je puis dire, à découvrir ce grand secret, celui que Dieu est proche. Une émission Vivante Église ce matin, l'école de la prière. C'est donc, pour rappel, comme il a été annoncé à cette antenne tout au long du week-end, notre grand cycle d'émissions Vivante Église de cette année, donc sur la prière, cycle d'émissions en partenariat avec les Carmes de Toulouse. Et ce matin, le thème de l'émission, c'est l'oraison de recueillement, et je reçois le père Jean-Emmanuel de Hena. Vous êtes donc carme, évidemment, de ce couvent de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et on apprécie, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez en voyage ces derniers temps, et donc voilà, vous êtes fidèle au rendez-vous en dépit de tous ces aléas. Je rappellerai juste, donc peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu l'une de ces émissions, ni le teasing qui a tourné à l'antenne tout au long de ce week-end, le but de cette émission, c'est donc un cycle d'émissions d'une dizaine pour aider tous les auditeurs, tous ceux qui aimeraient se mettre à prier, qui ne savent pas comment faire, qui n'ont pas à côté de chez eux une école d'oraison, et bien l'école d'oraison, cette école de prière, vient jusqu'à eux. Je pose souvent la question en introduction de l'émission. Vous vous reconnaissez dans cette courte introduction, vous avez hâte en fait de partager ce secret, et c'est un petit peu, enfin c'est l'un des apostolats des Carmes. Vous allez vous battre presque la campagne pour faire ces écoles d'oraison, non?
Absolument, on n'a même pas parfois besoin de battre la campagne, puisque ce sont les personnes, les paroisses, les laïcs qui ont eux-mêmes goûté à cette prière, qui viennent nous chercher, qui organisent ça sur leur propre paroisse, sur leur propre lieu. Très concrètement, en ce moment, il y a 8-9 écoles d'oraison qui sont ensemble, enfin qui vont commencer ensemble. Donc voilà, effectivement, nous avons hâte d'ouvrir la porte intérieure, de la vie intérieure.
Alors, donc il y avait eu 3 émissions déjà pour l'école de la prière. La première, c'était tout simplement une émission d'introduction à l'oraison. Qu'est-ce que c'est que l'oraison? Ensuite, l'oraison regarde des 10 ans différentes autres formes de prière. Il y en a de multiples, dont le chapelet, qui est donc à cette antenne chaque jour en direct de Lourdes. Et la dernière fois, l'un de vos frères était venu nous expliquer d'une certaine manière comment Dieu rentre en relation avec nous, par quelle faculté passe-t-il. Aujourd'hui, on va parler de l'oraison de recueillement. Alors, si on devait peut-être repartir de zéro, je me dis qu'il faut toujours se mettre à la place de ceux qui ne se sont pas décidés, qui ne se sont pas lancés ou qui tombent sur cette émission. Qu'est-ce qui fait qu'on se met à la prière? Vous allez me dire, vaste question. En préparant l'émission, je suis tombé sur cette expression que j'ai trouvée assez belle. La question de se mettre à la prière, ce n'est pas forcément une question une forme de volontarisme, mais c'est une volonté qui s'est laissée toucher. Est-ce que quelque part, c'est Dieu qui, à un moment, Dieu touche la volonté et donne envie d'eux?
Oui, je pense que ça peut être Dieu, et ça peut passer, Dieu peut passer par des circonstances très concrètes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit « j'ai soif d'autre chose ». J'ai soif d'autre chose, ça ne me suffit pas, cette vie est trop insipide et trop routinière, ou il me manque quelque chose. Ou alors au contraire, j'ai vécu une détresse particulière et je sens qu'il me manque des racines, j'ai vraiment besoin d'autres racines. Et ça donne envie d'aller chercher plus loin, d'approfondir, c'est vraiment au sens profond du terme. Donc quand il y a ce désir d'approfondir, ben effectivement, la vie intérieure, la prière silencieuse est une manière d'approfondir sa vie avec Dieu, mais sa vie tout court aussi, parce que ça veut dire aussi découvrir que j'ai un monde en moi, que je ne suis pas qu'à l'extérieur, que je ne suis pas qu'une surface, que voilà. Et donc, je pense que ça peut donner envie, à un moment donné, je sens le besoin d'aller plus loin, d'approfondir, d'avoir soif d'autre chose.
De partir à découvert du 6e continent, quelque part.
Oui, complètement, voilà. Exactement.
Alors, vous tenez à faire une distinction, pour vous, importante. Alors, vos frères en ont peut-être parlé, mais pas tant que ça, entre ce qu'on appelle la concentration et le recueillement. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que derrière, vous mettez toutes les formes de méditation auxquelles on peut être invité aujourd'hui, qui ne sont pas forcément chrétiennes? Je vous disais, on prépare l'émission, par exemple, la méditation de pleine conscience. On entend beaucoup parler de ça en ce moment. Pourquoi est-ce que pour vous, cette distinction est fondamentale? mal.
Oui, alors en fait, je pars d'un constat tout simple et qu'on rencontre très souvent auprès des gens à qui on essaie d'enseigner cette forme de prière, et ça revient très souvent. Ah, moi, je n'arrive pas à me concentrer. J'essaye de faire un peu de prière silencieuse, j'essaye de fermer les yeux, j'essaye d'être dans le silence, mais je suis distrait. J'ai des distractions, ce qui est classique, nous en avons tous, et donc je ne sais pas comment faire, je ne sais pas me concentrer. Et il y a évidemment une petite ambiguïté, enfin même une grosse ambiguïté, c'est que concentrer, c'est avec la tête, c'est avec le cerveau, c'est-à-dire c'est un peu les méninges. On essaye de concentrer, comme on essaye de se concentrer sur un problème de maths. Or, la prière silencieuse, la prière intérieure, c'est pas de la concentration au sens comme si je me concentrerais, c'est du recueillement. Ce qui peut sembler proche, mais qui n'est pas tout à fait la même réalité. C'est-à-dire que je me recueille à l'intérieur de moi-même. Je ne me concentre pas sur Dieu, sinon ça voudrait dire que Dieu est une idée et que je me concentre sur l'idée de Dieu. Vous voyez, voilà, c'est ça la distinction que je fais. Et donc effectivement, par rapport à cette méditation de pleine conscience que l'on entend un petit peu partout, que je respecte et que je comprends un petit peu pourquoi il y a cette soif, c'est justement peut-être une soif d'autre chose, mais là où je pense qu'on a un petit quelque chose à apporter, c'est que nous on appellerait, enfin pour ma part j'appellerais ça plutôt la méditation chrétienne de pleine présence. C'est-à-dire conscience, ça peut rester justement encore trop moi qui pense, qui réfléchit, qui mène les choses. C'est pas forcément le cas, mais ça peut l'être. Alors que je pense qu'il faut ouvrir la porte vers quelque chose de plus profond, qui est présence. Présence à la présence de quelqu'un d'autre, présence à soi-même, présence aux autres, une qualité de présence. Ce qui n'est pas tout à fait seulement la question de la conscience, même si je pense que la méditation de pleine conscience est pour beaucoup de gens, dans une heure j'en rencontre un certain nombre, a été un premier pas pour s'ouvrir à autre chose, à une autre dimension. Je pense que l'oraison, la prière silencieuse que nous essayons de transmettre, va, je ne sais pas s'il faut dire plus loin, évidemment, je pense que oui, plus loin, mais enfin après ça c'est à chacun de faire son propre cheminement.
Et c'est-à-dire qu'on peut se lancer en fait sans avoir cette grande distinction qui est de vouloir se mettre en présence de quelqu'un. J'ai souvent posé cette question à vos frères parce que parfois c'est en se mettant à prier que l'on peut découvrir en fait que ce silence est habité.
C'est ce que je pense, c'est pour ça que c'est le sujet d'aujourd'hui, le recueillement. Je pense qu'on peut commencer par le recueillement, on peut apprendre à se recueillir. Sans encore avoir fait la rencontre avec quelqu'un, avec le Seigneur, un des pas qui peut mener à cette rencontre, c'est justement apprendre à se recueillir. Donc il y a une part qui dépend de nous, de recueillir notre attention, d'être là, d'être présent. Donc oui, je pense que ça peut être une première étape, même si après, il va y avoir ce qu'on appelle une oraison de recueillement plus précisément, c'est-à-dire où on va sentir qu'on est absorbé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui prend un peu le relais en nous et qui nous aide à nous recueillir.
Alors, commençons par les débuts, peut-être dans cette oraison de recueillement. C'est pareil, les débuts, on en a parlé, mais je me dis que, enfin, j'imagine que dans vos écoles, vous revenez, en fait, on dit éduquer, c'est rabâcher. Hein.
Très souvent,
voilà.
Très souvent.
Et c'est exactement ce que l'évangile fait aussi. On ne change pas, on n'a pas une multitude d'évangiles en fonction des années liturgiques. Parlons des débuts. Vous avez cette image, en fait, vous dites que dans le fond, au début, il faut comme rentrer dans son jardin pour y trouver une source intérieure. Et ce n'est pas si facile que ça, déjà, de rentrer dans son jardin quand on n'imagine pas en avoir un. Ma première question, ça serait ça. Comment on fait pour trouver la porte du jardin, tout simplement ? Il faut vouloir la trouver et puis apprendre à se mettre en silence, se recueillir, tout simplement ?
Oui, exactement. C'est peut-être d'en avoir eu une intuition. Avoir eu à un moment donné, on est rentré dans une église et on a vécu un petit moment de paix profonde et on se dit oh, « c'est ça que je cherche ». Donc, je prends conscience qu'il y a autre chose. Ça peut être une émotion profonde qui me montre que j'ai un monde en moi intérieur, mais que je connais finalement très peu, voire rien du tout, que je n'ai pas exploré. Ça peut être une joie, ça peut être une tristesse, peu importe, mais qui me montre qu'il y a autre chose. Et donc, je me dis, j'ai envie d'explorer ce monde intérieur. Et donc, effectivement, on trouve cette porte en toute simplicité. Il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est extrêmement simple. J'accepte de fermer les yeux, j'accepte de me recueillir. Moi, je dis très souvent, il faut commencer par une respiration profonde. C'est là qu'on peut se rapprocher de la méditation de pleine conscience. Hein. On apprend à respirer, on apprend à habiter son corps. Je suis là, c'est extrêmement simple. Hein. voilà, je ne suis déjà plus tout à fait dans le même état que monsieur et madame tout le monde dans le stress quotidien. J'ai pris un certain recul. Je me suis mis dans une position qui me permet d'entrer dans ce jardin. Alors, ça ne suffit pas. Mais commençons par le commencement, par des choses simples. Trouver une position de mon corps, être là, respirer. Qu'est-ce qui va se passer au début ? Ben, qu'il y a des tas de distractions, que je n'ai pas du tout l'habitude. Comme on le dit souvent, c'est un peu comme la gym. Hein. Si je n'en ai pas fait depuis longtemps, les premières fois où je m'y remets, je suis tout ankylosé, j'ai mal partout. Hein. Ce n'est pas du tout la satisfaction immédiate. C'est au contraire, au début, je me sens très raide. Hein, et je pense qu'il y a un raidissement aussi de notre vie intérieure lorsqu'elle n'a pas été développée. Donc la souplesse, apprendre la souplesse. Donc effectivement, il faut prendre son courage à deux mains, il faut être régulier, progressivement s'y mettre, et d'autant plus qu'on en sent le besoin. Voilà, on s'y met parce qu'on se sent obèse, hein, on se sent lourd, donc comme on a envie d'être un peu plus léger et de découvrir quelque chose d'autre, eh bien on va s'y mettre progressivement.
Si j'ai bien compris, justement, le premier effet, c'est de, au regard de juste de ce que vous venez de faire, c'est-à-dire tout d'un coup faire silence, avoir cette respiration, ou faire mémoire de moments comme ça où on a entrevu quelque part une forme de notre monde intérieur. La première étape, c'est qu'en fait de se rendre compte que notre vie, nos pensées sont la plupart du temps très éparpillées, et de découvrir comme le début d'une paix intérieure, en tout cas de vouloir la chercher et la poursuivre. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus
C'est exactement ça. C'est-à-dire que le premier effet, c'est le recueillement, justement, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que je découvre que je peux me recueillir, qu'il y a une part de moi qui dépend de mes efforts, dans lequel je vais essayer de travailler, de cultiver, puisque nous sommes avec l'image du jardin, hein, et que, de cultiver ce jardin. Je vais cultiver en moi une attitude, je vais cultiver une attention intérieure. Et ça ne se fait pas spontanément, ça ne se fait pas tout seul, c'est un exercice. Il y a une part d'exercice, mais qui n'est pas non plus, contrairement à ce que notre imaginaire nous laisse croire, une opération extrêmement complexe qui est réservée que pour une élite de personnes qui sont tout à fait spéciaux et qui seraient capables de faire ça, alors que moi, pauvre mortel, je suis incapable de me recueillir. C'est faux, je pense que non, j'en suis capable. Par contre, il y a des réticences en moi, il y a des résistances. Je peux avoir peur d'explorer ce monde intérieur, ce jardin, parce que c'est un monde inconnu.
On peut avoir peur de sortir du bruit aussi, justement.
Sortir du bruit, exactement. Nous sommes dans un monde où on est dans la distraction permanente. Les publicitaires d'Internet, ils disent qu'il faut occuper du cerveau, du temps de cerveau. Hein. Notre cerveau est sans cesse sollicité. Bon, bah, effectivement, il faut débrancher tous ces autres écrans pour se connecter à la vie intérieure. Et ça, c'est vrai, ça coûte un petit peu au départ. Et en même temps, on sent tous qu'on en a besoin.
Alors, j'ai cru comprendre qu'il était, comment dire, normal et presque voulu par Dieu. J'ai trouvé une citation de Thérèse d'Avila à ce sujet. Que les débuts soient difficiles. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'on n'est pas habitué à faire de la gymnastique, ou est-ce qu'il y a quelque part une intention, il y aurait une intention pédagogique de Dieu ? Je retrouve le passage. Je crois à part moi que souvent le Seigneur veut donner au commencement et d'autres fois sur la fin ses tourments et les nombreuses autres tentations auxquelles on est en butte pour éprouver ce qu'il aime, savoir s'ils pourront boire le calice et l'aider à porter la croix. Voilà, ça peut paraître un peu raide comme
introduction. Oui, c'est un peu raide pour les débuts, mais
je ne sais pas si la citation est forcément choisie, mais en tout cas j'ai cru comprendre qu'il y a forcément un vrai combat au début, et quelque part il faut se battre pour pouvoir trouver la paix.
Oui, je pense qu'il y a un combat. C'est sûr qu'il y a un combat.
Pourquoi ?
Je veux dire, parce que tout coûte dans cette vie. Donc, pour me nourrir et pour gagner mon salaire, il y a un combat. Pour éduquer mes enfants, il y a un combat. Pour faire que notre pays aille mieux, il y a un combat. Enfin, donc, dans le domaine spirituel, dans le domaine de la rencontre avec Dieu, il y a aussi un combat. Alors, certes, dans ce combat, il y a d'autres forces qui s'opposent, les forces de notre égoïsme, les forces de notre moi, les forces du mal qui essayent d'empêcher qu'il y ait une vie spirituelle. Et bien sûr, l'adversaire, il aimerait bien qu'on n'ait pas du tout de vie spirituelle. Il préfère qu'on n'ait pas de vie spirituelle, il préfère qu'on soit des matérialistes, bien entendu, hein, et des gens distraits en permanence. Donc il va tout faire pour mettre des obstacles. Mais il y a aussi les obstacles intérieurs, c'est-à-dire que nous aussi, on est devenus confortables, on est conformistes, donc une vie intérieure, découvrir une vie intérieure va évidemment créer quelque chose de nouveau dans ma vie et donc va me permettre une aventure. Mais qui dit aventure dit risque, dit prendre des risques. Donc ce que j'entends par la citation de Thérèse d'Avila, de Thérèse de Jésus, c'est aussi qu'il dit, oui, le Seigneur permet une mise à l'épreuve, c'est-à-dire ça coûte, voilà, c'est un effort. Donc il permet parfois qu'on se rende compte que tout ça a un prix, que ça ne se fait pas tout seul, que ce n'est pas spontané, que ce n'est pas simplement la sincérité, puis non, il faut se donner les moyens, mais en même temps on se donne bien les moyens pour des tas d'autres choses. Quand c'est les soldes, on se donne les moyens d'avoir une bonne affaire. Bon, ben, si on le fait pour des choses matérielles, ça ferait quand même mille fois la peine de le faire pour des choses bien plus importantes qui sont le salut finalement et de découvrir la source intérieure de ce jardin.
Peut-être avant qu'on fasse une première pause, j'ai cru comprendre qu'il y a aussi un paradoxe à tenir au début, c'est-à-dire qu'à la fois il faut vraiment faire effort et en même temps il faut avoir une certaine mansuétude à son égard, il ne faut pas y aller à la schlag comme on dit.
Absolument, voilà.
Il y a une forme de reformatage en cours, de rééducation pardon, mais il faut être bon éducateur avec soi-même, dites-nous un mot de cela.
C'est exactement ça, c'est une expression très simple, il faut faire des efforts sans forcer, c'est simple. Pas de forcing, mais des efforts. Donc, il faut trouver la juste mesure. Alors, évidemment, chacun de nous, ça va dépendre de notre situation, de notre histoire. Si je suis dans une période très troublée, ça sera évidemment plus difficile. Si je suis, au contraire, dans une période bonne de ma vie, eh bien, peut-être que j'aurai moins d'efforts à faire, mais il ne faut pas que je force non plus. Par exemple, ça peut arriver que j'ai une expérience spirituelle très forte. Je risque parfois de faire du forcing en me croyant déjà être arrivé au bout du chemin spirituel. Non, pas de forcing. Mais en même temps, si je ne fais pas d'efforts, si je me laisse mener, ça ne viendra pas tout seul. Donc, effort sans forcer.
Voilà, de la gymnastique tempérée pour découvrir cette source intérieure dans votre jardin intérieur, ce sixième continent. En tout cas, alors c'est pas du Sainte Thérèse d'Avila, ça c'est du Emmanuel Pellin. On va faire une première pause et puis on retourne tout de suite après pour nous accompagner dans cette émission École de la prière sur l'oraison de recueillement.
Oh,
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc l'école de la prière, ce cycle d'émissions donc sur la prière en partenariat avec les Carmes de Toulouse. Et ce matin, le Père Jean-Emmanuel de Hena, donc Carme de ce couvent, qui nous guide et nous aide à découvrir ce qu'on appelle l'oraison de recueillement. Si j'ai bien compris, en fait, on commence à rentrer un petit peu dans ce qu'est le cœur de l'oraison après ces quelques émissions introductives pour nous faire, apercevoir et nous donner le goût de rentrer dans ce jardin intérieur, puisque c'est l'image que vous filez aujourd'hui. Alors, une fois qu'on est rentré dans ce jardin, qu'on s'est décidé à persévérer, à essayer de rentrer dans ce jardin, il faut l'arroser. C'est, semble-t-il, une des images importantes que reprend les grands maîtres de la prière carmélitaine, de la prière d'oraison. Avant ça, au risque d'être un peu redondant pour ceux qui auraient écouté toutes les précédentes, j'aimerais vous redemander quelques petits conseils pratiques. C'est-à-dire, une fois qu'on est décidé à persévérer dans la prière, quels sont les quelques conseils de base que vous donnez et redonnez en accompagnement spirituel ?
Alors, les conseils de base...
Vous avez parlé de la respiration tout à l'heure, par exemple.
Voilà, par exemple, ça en fait partie, effectivement, de ces conseils de base. La première chose, c'est bien sûr une détermination. Voilà. Je me donne à moi-même, je choisis, je fais un choix conscient, pas simplement j'essaye. Je prends une décision, il faut d'abord que je prenne une décision. Quand j'ai pris cette décision... Je vais prendre la décision de la fréquence, c'est-à-dire ce n'est pas qu'une fois de temps en temps, c'est une régularité, une certaine régularité. Et même quand je n'y arrive pas, je reprends, sans me décourager, en me disant « tant pis, j'ai raté un jour, un, deux jours, c'est pas grave, je reprends » au lieu de me dire « puisque j'ai raté un jour, deux jours, c'est plus la peine de continuer, c'est même le contraire qu'il faut faire. »
Et c'est pas quand j'ai envie surtout.
Et pas quand j'ai envie, parce que cela ne suffira pas, ça ne me permettra pas une régularité. Il faut que je me fixe à moi-même une régularité, voilà, je me suis donné la résolution de faire ça pendant X temps, si possible tous les jours, mais commençons par un temps, une semaine, deux semaines, trois semaines, à chacun de choisir en fonction de là où il en est, mais je me donne les moyens, je me donne les moyens. Ensuite, il est peut-être bon de trouver un moment dans la journée qui soit un petit peu un point de repère. Alors, on n'est pas tous faits de la même manière, donc il y en a pour qui le fait de se fixer un moment, ça peut devenir angoissant, mais enfin, quand même, la plupart d'entre nous, on a besoin de petits points de repère. Juste avant le repas, au moment de se lever, quand je rentre à la maison, voilà. Autre conseil pratique, un lieu. Ce lieu, bien sûr, peut être chez nous, peut être notre chambre, peut être notre coin prière, mais ça peut être aussi une chapelle que j'apprécie particulièrement, qui se trouve sur le chemin de l'école ou le chemin du travail ou que sais-je. Ça peut être un lieu de la nature, si j'ai la chance de vivre pas trop loin de la nature, un lieu vraiment où je me sens bien. C'est important aussi, un point de repère, parce que ça va être un repère. C'est-à-dire, chaque fois que je vais passer devant ce lieu, je vais me dire « Ah, une présence m'attend. » Donc, ensuite, effectivement, recueillement de mon corps, c'est-à-dire ne pas laisser mon corps de côté. Mon corps doit participer à ma prière. Donc, il faut que je sois avec tout mon corps. Corps, âme et esprit. Mais voilà, j'invite mon corps. Donc, je respire. Autre conseil pratique, évidemment, si c'est un lieu qui m'appartient, par exemple ma chambre, un coin prière, avoir une icône, une image, une statue, mais bon, ça peut valoir aussi pour une église. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va m'aider à me recueillir. Quand je vais avoir des distractions, je vais refixer mon attention sur cette icône ou cette image ou ce lieu, et hop, ça va me permettre de savoir revenir à ce pourquoi je suis là. Et puis, effectivement, je respire profondément et là, je me recueille et j'essaie de rentrer dans ce jardin intérieur. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, oui. Puis un autre conseil pratique très concret, c'est invoquer l'Esprit-Saint. Voilà. Je ne sais pas prier, je demande à l'Esprit même de Dieu de venir prier et d'intercéder pour moi. Ça, c'est très important parce que même si j'ai l'impression, moi, que ma prière a été nulle, si j'ai laissé l'Esprit prier en moi, elle sera toujours féconde, même si moi, je ne le sens pas.
Et puis un lieu, si possible, silencieux aussi.
Oui, bien sûr. Alors, par exemple, après, c'est effectivement, aujourd'hui, il faudrait même donner des conseils très pratiques. Éteignez votre téléphone, fermez la porte à clé pour ne pas être dérangé par vos enfants si vous avez des enfants. Après, il faut être très concret.
Achetez-vous des boules caisses.
Achetez-vous des boules caisses. Enfin, évidemment, après, effectivement, on pourrait même rajouter d'autres conseils très, très concrets dans le monde moderne qui est le nôtre.
Alors, parlons maintenant donc arrosage. Si j'ai bien compris, en fait, tout l'enjeu de, comment dire, de cet arrosage intérieur, c'est de passer de l'activité à la passivité. Donc, on appelle ça aussi passer de la méditation à la contemplation. Alors, prenons la première étape. Vous m'avez invité à me plonger donc dans un texte de Sainte Thérèse d'Avila qui nomme en fait quatre sources. La première, c'est le puits. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la noria. Vous pourrez expliquer ce que c'est. L'irrigation et la pluie. Alors, si on commence par les débuts, le puits, pourquoi Sainte Thérèse prend cette image pour le début de l'arrosage de notre jardin intérieur? Et qu'est-ce que ça veut dire surtout?
Alors peut-être qu'il faudrait prendre un peu l'ensemble de l'image d'abord, c'est-à-dire qu'elle essaye d'expliquer que la vie spirituelle, c'est comme cultiver un jardin, et que pour cultiver un jardin, il faut de l'eau, et que cette eau, on peut l'obtenir de différentes manières, de diverses manières, et que ces manières vont aller du plus difficile du plus ardu, de ce qui me demande moi le plus d'efforts, jusqu'à la manière où j'ai de mon côté le moins d'efforts à fournir et où cela est donné. Donc elle parle de ça dans son autobiographie, c'est-à-dire qu'elle-même a fait l'expérience de cette prière silencieuse. Elle n'a pas eu de chance d'avoir une école d'oraison, si j'ose dire. Par contre, elle a eu la chance d'avoir un livre qui l'a aidé à rentrer en oraison et qui lui a expliqué un petit peu cela. Du coup, elle-même faisant cette expérience, elle a envie de la transmettre aux autres, et donc elle parle de ces quatre manières d'arroser son jardin. Donc c'est au chapitre 11 de l'autobiographie de Thérèse d'Avila, si jamais
donc
vous
Thérèse
voulez.
Thérèse d'Avila, juste pour mémoire, voilà, donc grande mystique et
grande mystique réformatrice du XVIe siècle, réformatrice voilà. Du Carmel, le Carmel existait déjà, elle rentre au Carmel et elle réforme son propre ordre, et plus fort encore, elle réforme non seulement la branche féminine, mais aussi la branche masculine, avec l'aide de Jean de la Croix au XVIe siècle. Et bon, elle a écrit voilà, un certain nombre d'ouvrages spirituels, et puis elle a un impact énorme. Et on vient de fêter le 5e centenaire de sa naissance, la date que tous les Français savent, Marignane, 1515. Donc, c'est facile.
Alors, le puits.
Donc, le puits. Revenons au puits. Donc, quatre manières d'arroser le jardin. Le puits, la noria, la canalisation, l'irrigation, et enfin la pluie. Alors, première manière d'arroser le jardin, celle que nous connaissons bien, celle d'aller puiser au puits. On y va, on fait des efforts, on tire. Donc, ce qu'elle essaye d'expliquer, c'est que effectivement, dans la première étape, c'est ce que nous venons de dire hein, dans la première partie de cette émission, il va falloir faire des efforts. Au départ, l'eau, elle ne vient pas toute seule. Donc, il va falloir aller la chercher. Et donc, c'est évident que dans les débuts, quand on n'a pas encore une expérience spirituelle très approfondie, qu'on est quand même des débutants, nous ne savons pas comment faire. Donc, il faut faire des efforts, il faut s'y mettre. Donc, aller puiser dans le puits, c'est des choses que nous comprenons très bien chacun d'entre nous.
Qu'est-ce que ça veut dire en l'occurrence?
Oui, dans l'occurrence c'est très simple, ça veut dire que je suis distrait, que je suis dispersé, que j'ai des tas d'œufs et que ça me coûte beaucoup de m'arrêter. C'est tout simple. C'est un effort, c'est d'aller puiser dans le puits, ça veut dire j'accepte de prendre du temps, de m'arrêter, alors que j'ai toujours mille et une excuses pour pas m'arrêter. J'accepte de faire silence. Nous savons tous combien ça peut coûter d'efforts que de se taire.
Même quand on est carme.
Même quand on est carme. D'ailleurs, je me demande si certains ne sont pas appelés à être carmes précisément en raison de ce bavardage pour trouver un autre silence qui est un autre niveau et puis un autre converser avec quelqu'un d'autre. Voilà. Qu'avec soi-même ou avec les autres. Donc on sait que c'est la coûte et qu'il faut le temps pour ça. Donc il faut s'y mettre, il faut se donner des conditions, il faut se mettre à l'écart, ça coûte de mettre à l'écart. Enfin voilà, c'est ça le puits, c'est-à-dire que c'est tout ce qui dépend de moi, tous ces efforts que je prends. Ça peut être bien sûr, je prends la parole de Dieu, je prends l'évangile du jour et je fais l'effort de le lire pour le méditer, tout ça.
Alors justement, j'allais venir, j'ai cru comprendre que c'était une étape importante, c'est-à-dire qu'évidemment il faut... Surtout quand on n'est pas encore un grand mystique, il faut trouver à nourrir cette prière. Et donc la meilleure manière en fait d'entrer en relation avec Dieu, tout simplement, c'est de lire la parole de Dieu et de la méditer.
Voilà, ça peut être l'une des manières, c'est pas la seule. Hein. Ça peut être aussi d'autres textes, ça peut être une musique qui m'aide à me recueillir. Après, chacun doit trouver ce qui lui plaît, ce qui lui correspond. Hein. Mais effectivement, lire la parole de Dieu.
Parole de Dieu, c'est pas, comment dire, c'est pas une étape obligatoire. À vous
alors, c'est pas que c'est pas une étape ou pas une étape, c'est-à-dire ce n'est pas une méthode au sens que suivez numéro 1, numéro 2, numéro 3.
C'est pas là qu'on trouve la source de toute façon. C'est...
Si, mais la source, en fait, on la trouve dans le Christ. Donc, comme la parole de Dieu me parle du Christ, c'est le moyen, il se révèle dans la parole de Dieu. Mais il ne se révèle pas que dans la parole de Dieu. Donc, en fait, la réalité, c'est que la source, c'est le Christ. Donc, ce que je vais, c'est me donner tous les moyens à disposition pour rejoindre le Christ. Donc, très concrètement, par rapport à la parole de Dieu, Thérèse d'Avila dit « Tenez compagnie à Jésus ». Donc, vous vous sentez triste, eh bien, lisez Gethsémani. Imaginez-vous que vous êtes dans le jardin des Oliviers avec Jésus et essayez de lui tenir compagnie. Donc, c'est un effort quand même pour y être. Et c'est le début un peu de la méditation. Alors, nos frères jésuites ont aussi une méthode de recueillement. Donc, voilà, c'est l'une des manières, c'est de s'imaginer, de se situer. Bon, voilà, nous, on a quelque chose de semblable, mais un petit peu différent. Quand même, chacun bien sûr apporte son charisme propre. Ici, c'est vraiment ses efforts pour être là, présent. Elle dit, vous êtes heureux, eh bien allez sur le mont Tabor, la transfiguration, et réjouissez-vous avec les apôtres en disant à qui il est bon d'être ici, installons trois tentes. Voilà, on n'a plus envie d'en bouger parce que nous, on sent bien, on vit. Voilà, donc tenir compagnie, mais ça veut dire aussi surtout faire des efforts pour être là, alors qu'évidemment on aurait envie d'être ailleurs, ou il y a toute une partie de nous qui a envie de se distraire, eh bien non, il faut faire tous ces efforts. Donc ça, c'est la manière d'arroser avec le puits.
Alors la deuxième, la noria, peut-être rappeler ce que c'est qu'une noria peut-être, et puis qu'est-ce que c'est que cette noria qui semble-t-il introduit à ce qu'on appelle, qui est un peu le cœur de l'émission, ce qu'on appelle l'oraison de quiétude.
Absolument. Donc la noria, alors évidemment on n'en voit plus beaucoup hein, de nos jours, mais enfin c'était ces manières avec des godets qui tournaient. Alors soit c'était avec un âne qui tournait cela, qui allait recueillir l'eau avec des seaux, hein, mais qui tournait et qui permettait beaucoup plus une quantité d'eau hein, de se déverser dans un bassin qui permettait ensuite d'arroser. Comme il y avait une force motrice, alors ça pouvait être la force de l'eau, hein, d'une rivière, mais par contre, la quantité d'eau qui était ramassée était bien plus importante, avec surtout moins d'efforts que saut par saut, si vous voulez. Hein, là, y a une force motrice. Donc ça, c'est l'image. En Espagne, il y en avait beaucoup, hein, de noria. Donc, elle se sert de cette image. Thérèse d'Avila se sert des images qu'elle a sous les yeux, hein, bien entendu. Et ce qu'elle essaye d'expliquer, c'est que lorsqu'on progresse dans la vie spirituelle, lorsqu'on a accepté de persévérer un tant soit peu dans cet exercice et qu'on est rentré un petit peu, eh bien, il arrive à un moment donné que l'on expérimente une forme de paix intérieure. Et une paix qui ne dépend pas simplement du fait qu'on a bien mangé ce mal le matin et qu'on a bien digéré. Une paix qui vient d'ailleurs,
qui ne dépend pas des circonstances extérieures.
Voilà, qui ne dépend pas... Alors, ça peut dépendre des circonstances extérieures, mais il n'est pas que le fruit des circonstances extérieures. La meilleure preuve de ça, c'est que le lendemain, je suis dans les mêmes circonstances extérieures et je ne ressens pas cette oraison de quiétude, ou le contraire. Hein. Voilà. C'est-à-dire que, oui, les conditions extérieures peuvent influencer, mais elles ne dépendent pas des conditions extérieures. Ici, quand on parle de l'oraison de quiétude, donc de la noria, de cette manière d'arroser, c'est que elle explique qu'on fait une expérience d'un recueillement, justement. Un recueillement qui n'est plus moi qui me recueille, mais je me sens recueilli. C'est-à-dire, je suis en moi-même, je suis pris intérieurement. Alors évidemment, ceux qui n'ont jamais expérimenté cela vont trouver que c'est un peu du chinois. Ceux qui ont fait à tel ou tel moment dans leur vie l'expérience de ce recueillement verront à quoi fait allusion Thérèse d'Avila. Donc ça, c'est vraiment la noria, c'est-à-dire que les premières grâces spirituelle, contemplative, alors il faut bien sûr, après il y a les mots, il faudrait les définir, et puis bon, mais enfin bon, de quiétude, hein, c'est-à-dire de paix intérieure. hein, qui n'est pas le quiétisme. Le quiétisme, c'est la passivité, mais au sens où on laisse Dieu tout faire, comme s'il faisait tout et que nous, on ne devait rien faire. Alors que là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la quiétude, c'est-à-dire Dieu donne des moments de grâce où on se sent dans une paix profonde. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu la notion de ce qui est autour de nous. On sait où on est, on sait depuis combien de temps on est là, on n'est pas en extase, ce n'est pas de cet ordre-là. C'est de l'ordre de la quiétude profonde. Et évidemment, quand on goûte à ça, c'est très satisfaisant parce que on a moins d'efforts à faire et que notre jardin, il y a plus d'eau, il y a plus d'eau intérieure, donc ça pousse mieux, le jardin fleurit, hein, avec moins d'efforts, et du coup ça attire, on a envie d'aller plus loin parce que on a goûté à quelque chose dont on n'avait pas l'habitude de goûter. Alors on ne maîtrise pas parce que c'est Dieu qui intervient, qui donne cette paix, donc on n'a pas la main sur Dieu. Par contre, on peut s'y préparer. On va dans ce sens-là.
Alors, si on avance, les deux autres étapes, c'est l'irrigation et la pluie. Peut-être, comme je vois le temps passer, je vous propose de faire deux en un. Dites-nous ou faites-nous rêver.
Oui, d'autant plus que la pluie, c'est facile à dire.
Faites-nous rêver, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'âme et dans le jardin de ceux qui se seraient lancés, qui auraient persévéré?
Alors, donc l'irrigation, ça veut dire la canalisation, hein, c'est-à-dire on fait des canaux et donc il suffit d'ouvrir une vanne pour que l'eau passe. Hein. Il a fallu beaucoup de travail pour creuser les canaux, mais une fois qu'ils sont creusés, il suffit d'ouvrir une vanne et le champ est arrosé. Donc évidemment, beaucoup moins d'efforts que dans les deux précédentes. Pas encore comme la pluie, mais c'est déjà beaucoup. Donc là, c'est ce qu'elle appelle l'union de volonté. En fait, c'est relativement simple à expliquer, mais en même temps, il faut l'avoir expérimenté. C'est-à-dire qu'arrive à un moment donné, mais quand Dieu veut, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le prévoir, c'est pas automatique, c'est pas systématique, c'est une grâce de Dieu, que notre volonté soit unie à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que je suis pris par ma volonté. Je ne peux pas ne pas vouloir être là avec Dieu. Et je sens bien que je n'en ai pas la maîtrise. Mais en même temps, j'en suis très heureux. Je suis très content qu'il ait pris ma volonté. Mais parce que je me sens uni à sa volonté. Mais en même temps, ça me dépasse. C'est quelque chose dont je n'ai pas la maîtrise. Or, c'est très important parce que c'est par la volonté, qui est l'une des trois facultés de l'âme, intelligence, volonté, mémoire. Je pense que le frère Luc Barry en a parlé
la fois dernière.
Là, Dieu commence à prendre l'âme, à la capter, si on peut dire comme ça, hein, à lui, à l'unir à lui, et il commence par la volonté. C'est-à-dire que ma volonté est vraiment unie au Seigneur. Je veux ce qu'il veut. Je veux ce qu'il veut. Il m'unit à lui par ce biais-là. Et donc, effectivement, du coup, c'est beaucoup plus facile, bien entendu, puisque je me sens en paix. Je me sens pas.
Alors c'est justement la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que ça donne, peut-être, si vous deviez expliquer
Ça donne
quelques exemples.
Oui, c'est-à-dire que par exemple...
Qu'est-ce que ça change quelque part?
Ça change énormément de choses, parce que par exemple, concrètement, je ne vais pas prier parce qu'il faut que je prie. Je vais prier parce que je suis pris. Je suis pris par la présence de Dieu. Je ne vais pas aller à la messe parce que je me sens obligé d'aller à la messe ou parce que c'est une... Voilà. Non, je vais être pris. Je m'unis tellement à ce qui est en train de se passer sur l'autel que ce n'est pas un effort. Je n'ai pas besoin de faire un effort pour m'unir à cet autel. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de distraction, ça ne veut pas dire que je ne pense pas à d'autres choses, mais mon cœur est pris. Cela veut dire aussi...
Je pensais au-delà à des incidences dans la vie, au-delà de la vie spirituelle.
Absolument. Donc dans la vie quotidienne, ça va dire par exemple... que je ne vais pas aimer l'autre en fonction de ma petite sensibilité du moment, ça me plaît pas, mais je vais avoir une volonté forte, concrètement, je vais avoir la force intérieure, parce que j'aurai une volonté fortifiée qui sera unie à la volonté de Dieu, d'affronter une situation difficile, et je vais aimer l'autre au-delà de ma sensibilité du moment, qui a pu être blessée, froissée, donc je vais sentir une force intérieure en moi pour affronter des réalités. Alors là, j'ai parlé de quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi quelque chose de positif. j'ai une volonté forte qui va me permettre, par exemple, d'avoir des idées nouvelles. Alors, parce que ça, c'est la volonté, c'est l'union de volonté. Mais après, ça aura des influences sur l'intelligence, ça aura des influences sur la mémoire. Par exemple, il va renouveler ma manière de penser. Donc, tout à coup, dans mon couple, le Seigneur va m'inspirer quelque chose à faire vis-à-vis de mon épouse, de mon époux, auquel je n'avais jamais pensé préalablement. Pourquoi ? Parce que mon jardin est en train de fleurir, il y a quelque chose qui se passe en moi, qui me transforme, qui fait que je vais avoir l'idée de proposer à mon épouse, à mon époux, telle ou telle chose qui sera juste, qui correspondra. Parce que je ne suis pas guidé que par ma sensibilité, que par mon épiderme, que par la surface de moi-même, mais par mon être profond. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Je veux aimer et je veux être aimé. Mais comme je ne sais pas aimer, il faut que Dieu m'apprenne à aimer. Donc comment apprendre à aimer si ce n'est lui qui me l'apprend ? Et donc là, quand c'est le cas, eh bien du coup, ma volonté est unie à la volonté de Dieu et je peux faire des choses que je me sentais incapable de faire. Et évidemment, dernière étape, la pluie. C'est évidemment le plus simple, c'est-à-dire quand c'est Dieu qui fait tout, en certaines façons, mais nous, il faut qu'on reçoive cette pluie, il faut l'accueillir, évidemment, il faut être une terre prête à se laisser mouiller, qui mouille à la grâce, comme disait, je crois que c'est Peggy, mais je ne suis pas sûr, hein, alors que nous, malheureusement, trop longtemps, on est imperméable à la grâce, et bien là, c'est quitter l'imperméable, hein, être à nu devant Dieu pour laisser la grâce pénétrer en profondeur, c'est ce que vivent les saints lorsqu'ils se laissent complètement tremper hein, par la grâce de Dieu, et alors là, du coup, le jardin peut porter tous les fruits.
Merveilleux. On va faire une deuxième pause musicale et puis on vous retrouve tout de suite après.
Car je me laisse trouver. Venez à moi, je suis riche en pardon. Voyez, le salut est là.
Priez, ouvrez vos cœurs. Invoquez-moi, tant qu'il est temps. Priez, venez à moi. Je vous garderai dans la paix.
Emmanuel Pella.
Cette émission ce matin pour apprendre à se connecter avec Dieu et à avoir le haut débit, si je puis dire, de manière triviale, cette émission, l'école de la prière. Donc pour rappel, si par hasard vous nous prenez en cours de route, émission, cycle d'émission construit donc avec les Carmes de Toulouse, et ce matin c'est le Père Jean-Emmanuel de Hénin qui est avec nous. Dans cette dernière partie d'émission, je voulais que vous nous, comment dire, vous nous décriviez, enfin on s'est dit que vous alliez nous décrire deux grandes étapes de la vie spirituelle. Donc pour rappel, vous nous avez redit pourquoi, enfin quelque part que l'oraison c'est de vouloir rentrer dans son jardin intérieur pour y trouver sa source. Et une fois qu'on est dans ce jardin, une fois qu'on a découvert comment dire, où est la source, il faut apprendre à l'arroser. Et vous nous avez décrit dans cette deuxième partie les différentes manières d'arroser, où on passe, on va dire, d'une forme active à une forme de plus en plus passive. Il y a malgré tout, et en dehors de toutes ces formes d'irrigation, deux grandes étapes dans la vie spirituelle, dans cette vie d'oraison. La première, vous appelez, enfin, dans le contexte que vous m'avez fait suivre, c'est comme vous entendre comme parler en fait de l'enfance à peut-être au début de l'adolescence, voire de la vie adulte. On passe de consolation sensible à une forme de nuit des sens, comme on dit. Alors, décrivez-nous et décryptez-nous tous ces mots compliqués.
Alors, en fait, c'est compliqué et simple. C'est-à-dire que là, nous venons de faire, juste avant, les quatre manières d'arroser le jardin, c'est chez Thérèse d'Avila, sa manière d'expliquer l'évolution spirituelle, progressive, jusqu'à l'union d'amour avec Dieu. Jean de la Croix l'explique un petit peu autrement, mais bien sûr ça se recoupe, mais pas exactement. Et donc il va expliquer que en nous, alors je pense que la dernière émission, il y avait un petit peu ça. Il y a la partie sensible et la partie spirituelle en nous. Donc Dieu va purifier progressivement d'abord la partie sensible, ensuite la partie spirituelle. Pourquoi ? Parce que la partie spirituelle est plus profonde que la partie sensible. Donc il commence, autrement dit, par l'épiderme avant de s'attaquer au cœur. Voilà, c'est assez simple à comprendre, puisqu'il veut petit à petit nous faire vivre de sa propre vie. Or, comme ça ne se fait pas tout de suite et spontanément, il faut pour cela des étapes. Donc, très concrètement, lui, la première étape, il la compare au sevrage, c'est-à-dire que la croissance humaine, c'est-à-dire au début, ben, nous croissons avec du petit lait, on est servi à domicile, si j'ose dire, sans beaucoup d'efforts, sinon de pleurer un bon coup pour que maman vienne donner le sein. Voilà, c'est relativement simple. Voilà. Or, c'est vrai que Dieu permet, pas toujours, mais c'est quand même souvent le cas, au début, qu'il y ait des grâces sensibles. C'est-à-dire qu'on est recueilli, on est heureux d'être là, on sent la présence de Dieu. Il y a des premiers fruits très, très concrets. Et puis, arrive un moment dans la vie spirituelle où Dieu veut nous faire passer à l'étape suivante, à une étape plus profonde. Et donc, pour nous faire passer alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Dans la première étape, on arrive à méditer, on lit les évangiles, voilà, on est heureux de les lire, ça nous apporte quelque chose, on arrive à méditer, à avoir des belles idées, c'est bien, ça nous nourrit, c'est bon. Et puis, Dieu veut nous faire passer à une autre étape.
On en a le goût, d'une certaine manière.
Oui, on a un certain goût. On a un certain goût, c'est ce qui fait que beaucoup de gens redécouvrent ou découvrent la foi et avancent et progressent dans la vie spirituelle. Mais Dieu veut la faire passer à un moment donné, pas tout le monde, enfin, a priori, tout le monde y est appelé, mais après, bon, chacun selon son histoire, hein, à passer à l'étape suivante, qui est celle du sevrage, c'est-à-dire que je ne peux pas me contenter du sein, il va falloir que je passe à une nourriture plus solide, hein. Alors, il prend cette image-là, hein, il faut quitter l'infantilisme pour effectivement passer à l'adolescence. Pourquoi ? Parce que la nourriture devient plus solide. Alors, avec mon langage à moi, il ne le dit pas de cette manière-là, mais enfin, ça revient à la même chose. Il faut que les dents poussent. Et quand les dents poussent, ça fait mal. Le bébé, il pleure. Parce que, en plus, il ne comprend pas. Et puis, il faut qu'il se mette à mastiquer. Bon, il n'a aucune envie de mastiquer. Et puis, il faut qu'il passe du sucré au salé. Bon, ce n'est pas forcément très réjouissant au départ. On préférait rester. Bon. Et donc, il y a cette étape qu'on appelle, enfin, que Jean de la Croix appelle la nuit des sens. C'est-à-dire qu'on ne sent plus les choses de la même manière et qu'il va falloir passer à une autre manière plus subtile de sentir les choses. Donc, au début, ça panique un peu parce qu'on ne ressent plus les choses. Donc on se dit, Dieu s'est éloigné de moi, je ne comprends plus rien. Moi qui avais tellement de goût à prier, maintenant je n'ai plus de goût. Thérèse d'Avila est passée par là, Saint Jean de la Croix, ils sont passés par là. Et là, évidemment, la tentation, c'est de tout lâcher, de tout abandonner en se disant, ah ben, si c'est ça, si ça me coûte tellement, c'est pas la peine. Donc c'est vraiment le sevrage, passer de sevrage.
Et c'est une étape définitive, c'est-à-dire on...
Oui,
on ne redevient jamais un bébé d'une certaine manière.
Non,
même si
on
après,
redevient
on
jamais un
type de consolation. Mais...
Voilà, exactement. C'est exactement. Il y aura d'autres fruits, d'autres goûts qui seront donnés, mais justement beaucoup plus purs, beaucoup plus purifiés, parce que l'être humain ne se les accaparera pas, ne considérera pas qu'il met la main dessus. Hein, donc il accepte de se laisser mener. Tout à fait.
Alors, dans le texte que vous m'avez fait suivre, peut-être qu'on aura un peu moins le temps de parler de la deuxième étape, mais on va dire que...
D'autant plus qu'elle est plus difficile.
Voilà, pour un premier cycle d'émission, ce ne sera peut-être pas dramatique. Vous nous dites qu'on peut considérer en fait cette étape aussi d'un point de vue ecclésial. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Oui, c'est-à-dire que c'est un peu...
Toute l'Église ou...
C'est une demande.
Nos manières d'être Église serait impactée.
C'est une demande qui m'a été faite à une conférence dans laquelle, pour le monde d'aujourd'hui, pour l'Église d'aujourd'hui, comment comprendre les choses. Et donc, il m'a semblé, enfin, c'est une réflexion que je propose, qu'effectivement, l'Église en tant que telle doit aussi passer par une forme de nuit des sens. C'est-à-dire, concrètement, ne pas... en rester aux sensibilités ecclésiales, il faut se laisser purifier par le Seigneur pour dépasser nos diverses sensibilités ecclésiales, et Dieu sait s'il y en a, et nous y sommes confrontés jour après jour, pour comprendre que ce qui compte, c'est l'œuvre de Dieu, ce que lui, il était en train d'accomplir. Donc, rentrer dans une contemplation de Dieu, c'est ce que disent les papes, hein, ils le disent avec leur manière à eux.
Ne pas absolutiser son expérience ecclésiale ou
oui,
sa sensibilité.
Non seulement
ecclésiale,
pas aussi. L'absolutiser, mais savoir que ce n'est qu'une étape, c'est-à-dire que ce n'est qu'un moyen et non pas un but. Alors que malheureusement, évidemment, nous avons tendance, donc concrètement dans la vie spirituelle, c'est j'ai ressenti quelque chose de Dieu, donc Dieu est présent. Si je sens telle telle chose, c'est Dieu. Ben non, Dieu n'est pas une sensibilité. Dieu n'est pas un sentiment.
Donc je suis de la mission ouvrière, je suis tradit ou je suis charismatique.
Exactement.
C'est très bien.
C'est très bien.
Mais c'est pas une fin en soi. C'est
pas une fin
en soi. Dieu peut parler autrement et ailleurs.
Exactement, exactement. Et puis surtout, ce qui compte, c'est Dieu. C'est pas ce que moi j'ai expérimenté de Dieu. Ce n'est pas la mission que Dieu me donne qui est le plus important. Le plus important, c'est d'aller m'unir à ce Dieu-là qui m'a donné cette mission. Et donc, ça suppose de passer par une certaine purification, une certaine nuit, pour aller à l'œuvre de Dieu.
Il nous reste 2 minutes. Donc 2 minutes, ce sera juste, on va dire, une mise en bouche. Il y a une autre grande étape. Alors, elle est peut-être prématurée si on a juste commencé à prier en septembre dernier. Mais peut-être certains nous écoutent et sont également très avancés. Si vous deviez dire quelques mots de cette deuxième grande étape, on appelle ça la nuit de l'esprit. Vous appelez ça le reformatage du disque dur.
Absolument. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus rare parce que tout simplement, la plupart des gens n'ont pas la force de supporter ce reformatage du disque dur. Donc, mais Dieu fait, il souhaiterait le faire, mais il ne le fait que s'il peut le faire, que si nous sommes prêts à le faire. Donc ça, c'est Saint Jean de la Croix qui explique ça très bien dans le livre de la nuit obscure, ce qu'on appelle la nuit obscure, surtout dans le livre 2. Et il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. C'est-à-dire qu'en fait, quand la personne est allée assez loin dans une vie spirituelle, qu'elle s'est donnée à Dieu, qu'elle s'est unie à Dieu, à un moment donné, elle va passer par
un goulet
d'étranglement, merci, je ne trouvais pas l'expression, que moi j'appelle un reformatage du disque dur. C'est-à-dire que Dieu veut qu'à un moment donné, il change toute sa manière de penser. Il va renouveler complètement sa manière de penser. Autrement dit, les systèmes d'exploitation Windows 95, Windows 86, ça ne marche plus. La machine est trop lente. Elle n'est plus totalement... Enfin voilà, ça ne va plus, ça ne marche plus. Il y a des bugs de plus en plus nombreux. Et Dieu le permet parfois pour qu'on aille jusqu'au bout de ce système et pour qu'on prenne conscience tout à coup. Ah, là, il faut que je passe un autre système d'exploitation. Or, comme je ne peux pas me le donner à moi-même, c'est Dieu qui va le faire. Et c'est ça qui est difficile, parce que là, il faut qu'il reformate le disque dur de mon être profond. Et ça, c'est assez paniquant, parce qu'on a peur de perdre tous ces dossiers, la mémoire. Bon. Et pourtant, si on accepte, et certains acceptent et le font, alors là, ces personnes-là deviennent évidemment des non pas des super ordinateurs, bien entendu, mais des super amis de Dieu qui sont à l'œuvre, qui laissent Dieu agir à travers eux et qui sont des êtres libres, totalement libres. Bon, heureusement, on en a quelques exemples célèbres, mais d'autres qui sont peut-être moins célèbres autour de nous, mais qui ont vraiment vécu cela.
Voilà, vous citez à la fin du document que vous m'avez fait suivre, vous dites « Les saints meuvent l'histoire » et vous citez Jean 23. 1933 et sa convocation du concile, Jean-Paul II et la liberté qu'il a eue en plein régime communiste de faire une visite sur les chantiers de Gdansk, donc chantier naval en 1987, bref, on pourra en citer d'autres.
Voilà. Et même le pape François aussi, on pourrait dire qu'on sent bien qu'il y a une forme de liberté qui bouscule et ces êtres-là ne peuvent le faire que parce qu'ils ont accepté de se laisser faire totalement.
Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église pour cette quatrième émission donc du cycle L'École de la Prière. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Rémi Souloumiac. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.